qu'on est un peu décalé avec eux. On a le droit d'étudier les évangiles au crépuscule. Seulement, quand il fait ni jour ni nuit. C'est pas une blague, c'est une alaf. Et comme quand il fait ni jour ni nuit, on a beaucoup de choses à faire, on n'a jamais le temps. Mais il va faire plein jour. Alors j'espère que ça sera un peu plus clair.
Oui.
Ça commence. Mais tant qu'il y a la guerre, pour dire les choses à la limite, tant qu'il y a la guerre sur terre, c'est Caïn qui travaille. Hein? Et la chose la plus grave étant la fabrication des armes. Vous vous rappelez, si on avait étudié ce séminaire-là, et la grande inquiétude, c'est que l'économie des pays civilisés, de spiritualité chrétienne, l'économie tout entière de ces pays-là tourne autour de la fabrication des armes. C'est-à-dire, c'est une civilisation caïnite en plein. Okay? Alors, vous voyez que, je crois que l'Église a perdu l'Occident, l'a menée à sa perte, parce qu'elle est restée décalée préhistoriquement au niveau théologique. Et je crois que, malheureusement, ce n'était pas tellement par incompétence, c'était par antisémitisme. Faire comme les Juifs, jamais. Vous voyez quel était le problème. Bon, y a-t-il d'autres questions? De toute façon, laissons toutes ces dimensions du problème pour mercredi soir. Si de temps en temps je vois qu'il y a un point que je ne pourrais pas toucher à cause des difficultés de vocabulaire et de sensibilité, on en parlera en passant. Mais il est bien clair que la problématique fils de Joseph, fils de David, telle que les évangiles vont le reprendre, n'a rien à voir avec la nôtre. La nôtre est très simple. C'est la force politique qui correspond au corps, la force spirituelle qui correspond à l'âme, devant un créateur un, unique. Ça veut dire, l'unité messianique, c'est de se rappeler qu'on est monothéiste. Celui qui a créé le corps a créé l'âme. Et que par conséquent, le danger, c'est la mise en conflit, en dualisme non hébraïque entre le corps et l'âme. Et c'est de ces marloquettes-là, c'était la question de laquelle on était parti, que la Gamara avait peur. Et que Jonathan Benozi l'a dit, si j'explique un peu, peut-être ça les aidera à faire la paix. Okay? Ceux de Joseph et ceux de Judas. Et on est passé par ces questions-là. Et vous vouliez demander qui? Oui, vous? Oui. Parlez fort. Non, c'est lié au fait qu'il a dû faire la guerre pour protéger Israël. Et vous voyez comment ça va avec notre sujet. C'est-à-dire, il a assuré la rédemption de la faute du premier homme. La rédemption de la faute du deuxième homme, il n'a pas pu, parce qu'il était obligé de faire la guerre. Il a fait la guerre pour des motifs légitimes, mais il a fait la guerre. Alors ce n'est pas lui qui construira le temple. Il faudrait que ce soit Salomon qui est l'homme de la paix. Mais il n'y aurait pas eu de Salomon s'il n'y avait pas eu David, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi la première chose que Salomon va dire, et il dira, eh bien, vous rappelez du psaume des portes qui doivent s'ouvrir, les portiques sacrés. Alors il dit, ouvrez-vous pour que David entre dans le temple. Vous vous rappelez de cela? Bon, alors quelle heure est-il? Vous devez être épuisé comme le sujet.
Non, non.
Le sujet n'est pas épuisé. Vous voulez qu'on ait 5 minutes de détente?
Non.
Ou bien on enchaîne sans détente?
On enchaîne.
Non, je voudrais un verre de thé chaud s'il y a. Chaud, pas froid. Alors écoutez, en attendant
le thé,
ma chillard.
Je croyais de thé.
Si vous avez encore une autre question, pour pas qu'il perde le fil. Oui? Écoutez, il me faudrait une demi-heure pour ça. Seulement, puisque j'ai eu l'imprudence d'en parler, et que je subodore que beaucoup de gens ne seront pas là ce jour-là parce que les horaires de la vie en Occident, je vais vous dire très très rapidement. La force qui permet au corps d'exister, c'est le Yetzer. Ça va? Donc. Et donc, lorsque sera achevée le stade Machiav ben Yosef, qui précède Machiav ben David, lorsque se passera la transfiguration d'un stade à l'autre, disparaîtra cette force qui est le Yetzer Hara à l'échelle individuelle, et il manquera quelque chose dans les mondes. C'est-à-dire, on se sera transfiguré. Seulement, il manquera ce que faisait la valeur du stade d'avant la transfiguration. Je ne sais pas comment vous dire. Le goût des bonbons sucrés. Okay. On aura oublié qu'est-ce que c'est un bonbon. Mais enfin, quand même, dommage. C'est ça ce que dit la Gemara. Au niveau de notre problème, c'est l'identité nationale spécifique israélienne aujourd'hui, juive, disons, qui, lorsqu'elle coïnciderait avec l'identité humaine universelle, et voyez à quel stade on se trouvera, on regrettera quand même le drapeau bleu et blanc. C'était dommage. Mais pour le moment, on est dans ce stade-là. Vous avez compris le problème. C'est ça. Ça veut dire, ma chère Benyosef et Tserara, c'est la même chose, mais à la gloire de la vie terrestre. Vous avez compris? Oui. Eh bien, vous voyez qu'on passe son temps à prendre le deuil. Hein. Depuis qu'Israël existe, Israël est en deuil. Je sais pas si vous... Il existe comme, comme entité nationale, et ça fait 6000 ans que ça dure. Okay. Alors, la fin du deuil, ça sera un grand deuil. Et après, le stade où on passera, il n'y aura plus de théologiens. Alors, c'est pas la peine de poser les questions. Okay. Hein? À Mispet, Birushalay. Je crois que ce qu'il y a d'antique, d'important, c'est que ça se passe à Jérusalem. Un point. C'est ça l'important.
Je voulais vous demander,
oui.
Quel événement disons, historique ou enfin, comment on peut appeler ça, qui a fait que nous avons besoin d'un Machiav ben Yosef et de Machiav ben David? On aurait pu très bien s'en passer de ces deux Machiavim.
Oui, mais tout cela, nous allons l'étudier tous les matins. C'est-à-dire, étant donné la différence de vocation, de ces deux vocations tout indispensables, elle risque jusqu'au bout de s'opposer au lieu de s'allier.
Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un marché?
Mais de la même manière qu'on a besoin d'un restaurant pour manger. Vous comprenez? Ça veut dire, on a besoin d'un restaurateur. Il faut restaurer l'état du corps. Il faut restaurer l'état de l'âme. Mais on le verra très en détail. J'avais entendu, j'ai répondu trop vite, j'avais entendu dans votre question pourquoi on a besoin d'un Machiav ben Yosef avant d'un Machiav ben David. Mais les deux questions vont ensemble. Il faut arriver à la transfiguration. Mais il faut passer par la transfiguration en train de se faire pour arriver à la transfiguration faite. Est-ce que c'est clair? Il y a une différence. Un corps sans âme, c'est pas un homme. Mais une âme sans corps non plus. Même qu'on appelle ça un fantôme. Et c'est pas du tout une expression populaire pour dire enfant de l'homme. Ken, il y a encore une autre question? Ah, le thé est arrivé. Donc,
si vous s'adresse aux enfants d'Israël, il leur dit baptême, qui nous dit Mamelechet Kohanim ve Goy Kadosh.
Oui.
La notion de Mamelechet Kohanim, Melech, c'est la notion de votre politique.
Très bien. Écoutez, dans les deux expressions, Mamelechet Kohanim et Goy Kadosh, vous avez les deux dimensions. Tout ce que vous voudrez. Mais, et ça peut être dit de mille manières, mais c'est très bien votre verset parce qu'il y a les deux dimensions à la fois. Il faut qu'elles soient les deux pour qu'Israël soit présent. Sinon, on est dans un temps provisoire de parenthèse, de sursis, de survie, en particulier ce qu'on appelle la galoute, en attendant que ce soit possible. Et alors, il y a des spécialisations du travail dans la limite des vocations. On devient que homme politique ou que homme spirituel, tout ça c'est juif encore. Mais en attente, provisoire, on se prépare. On se prépare à Sion. C'est comme ça qu'on dit en français. Absolument. Absolument. Et on avancera la question. C'est pourquoi le statut de la royauté du royaume de Juda et du royaume d'Ephraïm, qu'on appelle la maison d'Israël, le royaume du Nord, n'était pas le même. Parce que lorsque la maison d'Israël, le royaume du Nord, Ephraïm, Beth Yosef, se sépare de Juda, elle devient une royauté à la manière des Goïms. Vous comprenez? Et là, tous les risques de tyrannie, tous les risques de raison d'État, tout ce que vous voudrez, apparaissent. Et La royauté de Juda, elle, est une royauté, je ne sais pas comment dire, vous voyez qu'on ne peut pas parler français. J'allais dire de droit divin, mais en français, ça a un tel sens, Dieu préserve. C'est une royauté, si vous voulez, je dirais provisoirement, consentie, cachère. Le peuple reconnaît son roi. Ce n'est pas n'importe qui peut reconnaître, mais il reconnaît son roi. Ce n'est pas une royauté imposée. C'est pourquoi, par exemple, la Gemara dit, le roi de Beth David, c'est-à-dire de la maison de David, le roi de Juda, juge et est jugé, tandis que le roi d'Israël ne juge pas et n'est pas jugé. Puisqu'il n'est pas jugé, il ne peut pas juger. Il est hors la loi. Ça, c'est le roi à la manière des Goïms. Okay. Quand même, un roi d'Israël, il n'est pas roi à la manière des Goïms, comme les Goïms, mais c'est le même genre. Et vous savez à quel point l'État d'Israël contemporain ressemble plus à la royauté de David, puisqu'il juge et est jugé, je dis ressemble, hein, qu'à la royauté d'Israël, où il n'est pas jugé, il ne juge pas. Ça ressemble, parce qu'on sort à peine de la clandestinité. Okay. Mais c'est très important à noter. Alors il y a ce problème, effectivement, de la conception de l'État, la conception de la royauté, mettez ça entre guillemets, ça veut dire le pouvoir politique. Okay. Et tout se passe comme si nous n'avons pas mérité, et ceci au titre de l'humanité entière, que ces choses-là, de ces moments de fin de temps d'exil, se passent en ordre, dans la gloire, dans le repos, dans le gentiment. Ça se passe en chaos, ça se passe en douleur d'enfantement, mais dans tous les cas, c'est un passage qu'il faut passer pour arriver au stade suivant. Or, nous parlons par allusion, par préfiguration, du temps messianique dévoilé. Mais nous ne sommes que dans un temps de passage. Alors, toutes les analogies doivent être nuancées à ce niveau-là. Ça ressemble. Mais c'est ça qui ressemble. Il n'y a pas autre chose qui puisse ressembler. Est-ce que j'ai compris? C'est compris ce que j'ai dit. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on avance dans le texte. Comme ça, on serait un peu plus avancé. Alors, vous avez le paragraphe qui commence en fin de page. Veine. Mitrila. Uchanu. Vous suivez? Veine. Mitrila. Uchanu. Shtek akochot aklaliot. Dès le début, sont mises en place, sont préparées ces deux forces collectives, ces deux forces globales. La force de la messianité politique, la force de la messianité spirituelle. Bishne Ashvatim, dans les deux tribus, j'ajoute, principales, chez Uchanu Limloch de Israël, qui ont été appropriées à régner en Israël. La tribu de Joseph, c'est-à-dire Ephraïm, la tribu de Juda, c'est-à-dire la maison de David. C'est clair? Il y a deux tribus où la prérogative royale peut apparaître. Toutes les tribus ont une fonction dans l'économie messianique. Il y a une prescription de la Torah que le roi devait écrire deux Sefer Torah. Un pour lui, un parce qu'il est roi, pour le peuple tout entier. Mais il y a aussi le fait que chacune des tribus avait un Sefer Torah. Il y a le Sefer Torah de la tribu des musiciens. Il y a le Sefer Torah de la tribu des médecins. Il y a le Sefer Torah de la tribu des avocats, etc. Il y a le Sefer Torah de la tribu d'Ephraïm. Il y a le Sefer Torah, c'est le même Sefer Torah dans l'écriture. Et dans la lecture, chacun avec son travail. Vous voyez que nous sommes bien loin. Il nous était resté, à travers 2000 ans de l'exil, que le Sefer Torah de la tribu de Lévi, où on a mis tous les autres aussi dedans. Et nous sommes dans un temps très difficile où les fonctions messianiques de chacune des tribus doivent se dévoiler. Mais en particulier ces deux-là, celle de Yehuda, l'enseignement de la Torah, et celle de Yosef, Ephraïm, la direction des affaires politiques. Mais si on oublie qu'il y a un Dieu unique qui a donné ce même Sefer Torah, alors on oublie le principe même de la messianité d'Israël. Et c'est ce que dit le Rav tout de suite, ces deux tribus, c'est Ephraïm et Yehuda. Je cite ça pour les plus érudits. Lorsque l'exil commence, il commence par qui? Joseph. C'est Joseph le premier qui va en exil. Et lorsque la Torah nous raconte que la famille de Jacob tout entière va rejoindre Joseph en exil, il y a un verset qui dit ceci, que Jacob a envoyé Juda, Vaishlach Yehuda Lehorot. Et le Midrash dit, vous le verrez dans Rashi, pour préparer un Talmud Torah. Si déjà il faut descendre en exil, il faut que quelqu'un ait préparé le Talmud Torah. Et quoi, et Joseph n'est pas capable? Il avait autre chose à faire. il tenait les comptes de l'économie égyptienne. Okay? Donc il a fallu que Judas descende à l'avance pour préparer un Talmud Torah dans le pays de Goshen. Vous vous rappelez de cela? Regardez bien dans les comptes. Ephraim et Yehuda. Shehu klal Yosef et Yehuda. Quand nous disons Ephraim et Judas, ça veut dire Joseph et Judas. Ça va jusque-là? Ou que mon batrila, bitrila ma aservo siman labanim, et de même que dès le début, comme au début, ce qui est arrivé dans la geste des actions des pères, siman labanim, c'est un signe de ce qui arrive aux enfants. On sait de Joseph qu'il est le dispensateur de la subsistance terrestre. Voilà comment ça se dit dans le verset. Yosef haya hamashbir. Joseph était celui qui donne à manger. Ça va jusque-là? Le fécondateur, je ne sais pas comment. Ça joue un rôle dans la mythologie chrétienne. Par la suite, on verra ça mercredi soir. Okay? Le père nourricier, vous rappelez de... Sheshalachoto Elohim l'ifleta. Dieu l'a envoyé à l'avance. L'ifleta gedola, c'est une des expressions du verset, pour assurer la survie des rescapés. L'état Gedola. Les Hayot Amrav, pour faire vivre, donner à manger à un peuple nombreux. Ministre de l'économie de l'Égypte, apparemment, mais pour le monde entier à travers la famille d'Israël. Makbit interposé. Vechia et Jacob Banav, il a assuré la subsistance de Jacob et ses fils, Bechia Homer. Au niveau de la vie matérielle, l'Echem les fiataf, le pain pour chaque bouche de nourrisson, littéralement. Be'et shegamken kolaret baou le mitzrayim nishbor. En un temps où la terre tout entière venait faire son marché en Égypte, aujourd'hui c'est je ne sais pas où, probablement l'Amérique. Enfin, disons la civilisation occidentale. C'est la civilisation occidentale qui tient l'économie de la planète. Et toutes ces réunions qui se passent entre pays. Sous-développés, en développement, je ne sais pas comment on dit, les pays riches, les pays nantis, les pays pas nantis, ça tourne autour d'un certain Joseph qui est censé être le mashbir, le donneur à manger pour la planète entière. Et en général, comme vous le savez, c'est très schématique, mais c'est clair, les juifs participent notablement aux affaires économiques de la planète, un peu partout. Même en France, je crois que c'est un juif qui donne des conseils. Et c'est très important, comme on le rappelle, dit cela ici. C'est bon, si c'est pas Atali, c'est Stoleru, mais ça dépend des régimes. Non, mais je pense à la série des grands économistes et de ceux qui font la science de l'économie d'ailleurs. Ça veut pas dire qu'il y a que des juifs, mais c'est cette force de Joseph qui travaille chez ceux qui s'occupent de ça. Est-ce que c'est clair? Et quand c'est coupé de Judas, c'est-à-dire le projet spirituel, c'est très grave. C'est ces machloquettes-là que Jonathan Ben Uziel voulait évacuer. Oui, ce que le Rav dit, c'est que la famille de Jacob va chercher à manger en Égypte quand la terre entière allait chercher à manger en Égypte. Pour beaucoup de raisons, là je vous cite mon maître, M. Bordin, Zichrono Livracha, et qui nous disait dans ses premières leçons, c'était juste après la guerre mondiale, aujourd'hui où est l'Égypte? C'est l'Amérique. Et il le disait à l'avance, c'était tellement évident pour lui. Il nous citait la carte d'identité de l'Égypte dans le Midrash, avec des analogies avec la société américaine déjà de ce temps-là et de notre temps. Il appelait ça le pays noir. Le pays noir, ça veut dire le pays où on est obsédé par la mort et la débauche, parce que ça va toujours ensemble, et où les hommes religieux s'habillent en noir. Oui, c'est l'Égypte s'appelle dans le Midrash le pays noir. Je crois d'ailleurs que dans la tradition égyptienne aussi on l'appelait le pays noir. Mais ça, il faut vérifier, je ne me rappelle plus de... Et puis voilà, on a dit de Joseph, suivez, c'est un verset qui arrive là. « Vayedar shivim lachon » Il avait le don des langues. Il connaissait les 70 langues. Il était le juif cosmopolite qui pouvait parler n'importe quelle langue. Et les cosmopolites ont l'habitude de définir le cosmopolitisme comme étant l'universalisme. Il y a un pompier qui est anti-juif qui a passé à l'intérieur. Et ça aussi, j'essaierai de toucher cela mercredi soir. Par exemple, lorsque le christianisme se présente comme un universalisme, la visée idéale, sans aucun doute, est authentiquement universaliste. Mais la réalité politique est cosmopolite, et ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Or, il est très important de voir que les hommes de leur vocation économiste, je crois qu'on appelle ça aujourd'hui les supranationales, ne sont pas universalistes, ils sont cosmopolites et c'est très différent. Et vous savez d'ailleurs qu'un des arguments de l'arsenal de l'antisémitisme, c'était d'accuser les juifs de cosmopolitisme. Et je me demande s'il n'y a pas ici un problème à éclaircir. Je ne me suis pas engagé, hein, pas encore. Et s'il n'y a pas ici quelque chose de délicat. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? C'est le danger d'une diaspora est toujours le cosmopolitisme, même quand ça se déguise derrière de l'universalisme. Lisez Trigano. Alors, ça s'annonce déjà chez Joseph. Il connaissait les 70 langages des nations. Chez Humoré, et cela désigne, chez Humoré, Al-Atsdadim, ça fait allusion aux dimensions d'identité chez Esh Yahas Shivuy Ben Israël Amin Kulam, où il y a un lien plus que d'analogie, d'égalité, mais il faudrait dire sans latin, des qualités entre Israël et les peuples du monde. Ça veut dire à ce niveau-là, il y a un relais qui s'appelle Joseph et il parle les langues des nations. Vous suivez jusque-là ? Vous savez comment la théologie chrétienne a transposé ça dans le don des langues des apôtres à la Pentecôte ? Vous vous rappelez de cette histoire ? C'est la fonction diasporique de l'identité Joseph. Ou Mikol Makom, Yadar Koark du château. Mais Joseph, de l'histoire biblique, connaissait la force de sa sainteté. Joseph, de l'histoire de la Bible, de la famille de Jacob, c'était le juif cosmopolite, mais dans l'état de Kedusha, de sainteté, même si ses frères l'ont soupçonné jusqu'au bout. Et après, il se dévoile que c'est de lui qu'on dira Yosef HaTzadik, Joseph le juste. Le fait qu'il était tzadik, dans sa dimension de Kedusha, ici dit le Rav, de sainteté, s'est dévoilé en fin de compte. Mais c'est la grande différence entre Joseph, hébreu, des 70 langues de l'universel, et les pseudo-Joseph, même juifs, cosmopolites. Vous comprenez cette différence, okay ? Et en général, d'ailleurs, ils ont leur bureau de change en Amérique. On continue. Okay ? Aucune allusion, hein ? Oui, mais avec un accent bizarre. Américain de plus en plus. Mais Dafka a l'aidé Zé Itaron, et c'est grâce à ce surplus de valeur, Itaron, j'essaye de vous interpréter, à ce surplus d'être de ce Joseph Hatzadik, fils de Jacob, le patriarche, En Esar Nofel, Esaü, l'antagoniste de Jacob, ne tombera qu'im que Beyad Banea Shel Rachel, par la main des enfants de Rachel. Parenthèse nécessaire. Cette polarité différente, Ephraïm Yehuda, de vocation des enfants de Jacob, c'est déjà à la racine l'équation les enfants de Léa, les enfants de Rachel. Vous y êtes ? Pourquoi il y a deux lignées royales ? Joseph par Rachel et Judas par Léa, c'est-à-dire Réhouben, non, Shimon, Lévi, non, Judas. Parenthèse dans la parenthèse. Mais Yehuda vient ici à la place de Réhouben. C'est le premier-né de Léa, alors que Joseph est le premier-né de Rachel. Il y a deux vocations dans l'identité de Jacob, une par Léa, une par Rachel, deux vocations qui sont quatre, puisque Léa c'était aussi Zilpa et Rachel aussi Sibylla. Ça nous renvoie à d'autres problèmes. Simplement, je le signale en passant, Israël comme Jacob, Jacob comme Israël, va prendre sur lui l'engagement monothéiste, l'aventure monothéiste. Les deux vocations, terrestre et supraterrestre, non, les mots ne sont pas exacts, politique et spirituelle, l'une par Léa, l'autre par Rachel. Et finalement, ça se distribue comme ça. C'est que Joseph, par Rachel, à la fonction royale politique, Judas, par Léa, à la fonction royale spirituelle. Or, va nous dire le Midrash, le conflit inexpiable entre Jacob et Ésaü, et finalement, comme vous le savez, Ésaü s'incarne dans la civilisation romaine, va prendre fin par les enfants de Rachel qui triompheront d'Ésaü. Les enfants de Rachel, ça veut dire Joseph et Benjamin. Et tout ça est important. Joseph, c'est-à-dire Ephraim. Vous vous rappelez le Midrash précédent avec le Kabbaliste ? C'est que Rommel n'a pas pu vaincre le Machir Ben Yosef, a dit la tradition. Et ça s'est passé de notre temps. Enfin, certains d'entre vous étaient encore jeunes, mais les gens de ma génération se souviennent de tout ce conflit énorme où on se disait, mais qu'est-ce qui va arriver ? Et sauf, Armilaou Sarachar n'a pas pu... c'est clair, Tom. Une minute, j'ajoute une phrase. Qui a Inyan, Minehoubé, Abanizel Ben Narga. Tom, ça je traduis pas, ça va nous donner. Vihouda, Miyouchad, Lekoach Israël, Amiyouchad. Alors que Judas est spécifique de la force spécifique d'Israël, c'est-à-dire la Torah. Est-ce que c'est clair ou j'explique plus ? Il y a de la vie spirituelle partout. Il y a de la vie religieuse partout. Il y a des philosophies partout. La Torah, il y en a une seule. C'est la Torah d'Israël. C'est clair ? Donc, il y a des Mashiach, des Melech Mashiach, genre Ben Yosef, partout. Et ça ressemble pas, mais c'est le même niveau. Mashiach Ben David, il y en a un seul. Parce qu'Israël, il y en a un seul. Et la Torah, il y en a une seule. C'est ça le problème. Aïta Yehuda le Kotso. Israël, Judas est devenu celui qui est consacré à sa sainteté spécifique. Il faudrait une demi-heure pour lire ce qu'il y a dans ces trois mots, dans l'intention midrashique du Ravis. C'est un verset des psaumes, et c'est le psaume qui parle de la sortie d'Égypte. Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am lo'ez, Aïta Yehuda le Kotso. Lorsque le cycle Joseph prend fin, que c'est la fin de l'exil, le cycle Joseph de l'exil prend fin, le verset dit Aïta Yehuda le Kotso. C'est Judas qui prend le relais. Mais ici, le Rav a utilisé cette expression du verset avec un chidouche très très précis. Yosef est moins consacré de façon spécifique, exclusive que Judas. Je vais essayer de vous montrer ça très rapidement, mais je m'arrête. Quelle heure est-il ? Oui, on a encore 10 minutes. Sur le dernier verset qui va être cité pour notre étude de ce matin, Ohel Shiken Ba'adam. Suivez bien. Toute la problématique universelle, cosmopolite, dont nous avons parlé tout à l'heure, elle est dans ce verset. Il est dit de Joseph, il a planté sa tente chez l'homme en général, dans l'humanité. Il est l'humaniste juif, si vous voulez. Et c'est là qu'est cette problématique difficile. Je pense surtout aux dégâts du vocabulaire des nouveaux philosophes, qui de notre temps tentent de formuler un nouvel humanisme juif, et qui ne savent pas l'hébreu. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Et qui ne savent pas tout ce qui va avec l'hébreu. Et encore, s'ils se bornaient à dire ce qu'ils ont à dire, c'est bien, mais ils citent la Bible. Il y a une seule citation. Cachère, c'est quand on cite à Sion. Et eux, ils citent ça, on se demande. Bon, c'est la problématique universalisme, soi-disant, cosmopolitisme. Même si c'est écrit en français, en faisant allusion au fait que l'hébreu, ça existe puisqu'on est né juif. C'est ce problème-là qui est dans ce verset. Ohel Shiken Ba'adam. Il a planté sa tente à la Sorbonne. Le risque de piège, le risque d'échec, c'est le cosmopolitisme. Mais si c'est Yosef HaTzadik, s'il est Yosef Bik du Château dans sa sainteté, alors c'est ça, l'universalisme, qui devient l'identité politique d'Israël comme nation. Donc, quel est le problème de cette définition que le Rav nous donne de la vocation Joseph et de la vocation Judas ? Pour le moment, on n'a pas encore parlé de la vocation Judas pour elle-même, elle va arriver. Judas, c'est le Rosh Yeshiva, alors que Joseph, c'est le président de l'État. Avec tout ce qui va avec d'un côté comme de l'autre, vous comprenez ? Arriver à ce niveau de monothéisme, que l'un c'est l'autre, et que c'est la même chose, c'est ça le monothéisme juif. Vous avez compris à quel point ça peut être étrange pour les catégories de la culture occidentale. Que l'un, c'est l'autre. Que Judas et Joseph, c'est le Mashiach. Et que l'un, c'est le fils de Jacob, et que l'autre, c'est le fils de Jacob avec tous les autres fils de Jacob. Et voilà, c'est cette problématique lourde de conflit que Yonatan Ben Uziel voulait atténuer dans sa traduction du Targum du verset en question. Je veux dire, il y a quand même, d'une certaine manière, ceci. Et alors, vous vous référez aux deux chapitres de la Genèse de Bréchit dont on aura besoin demain, le chapitre 38 et le chapitre 39. C'est que les tolados, les engendrements de Jacob, continuent à travers toutes les tribus. Mais la difficulté de ces engendrements, révélé l'Eda, comme on dit, les douleurs de l'accouchement, elles nous sont racontées dans ces deux tribus-là, Joseph et Judas. Comment continuer les engendrements par Joseph et par Judas? Et vous verrez que les deux dimensions de l'engendrement messianique sont mises en place dans ces deux chapitres. On nous raconte le mariage de Joseph, on nous raconte le mariage de Judas. Le problème, c'est que le conflit, là je vous cite de mémoire le Shla, qui a longuement parlé de cela à propos de ces chapitres-là. Le Shla, c'est le Shnei Luchot HaBrit. Je ne dis pas qui c'est, ça va nous prendre une heure, mais ceux qui savent, savent. Okay. Explique ceci, les deux royautés sont légitimes. Le conflit n'était pas ou toi roi ou moi roi. Ça, c'est le faux conflit. Les deux sont nécessaires. C'était l'ordre. Qui roi d'abord et qui ensuite? Et nous verrons que ce conflit est très difficile. Parce que qui roi d'abord? Joseph, Judas va s'opposer. Et puis, si Joseph accepte, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que si c'est Judas appris, il sera plus haut. Alors, tant qu'il n'y a pas l'amour des frères, ça ne marche pas. Dès qu'il y aura l'amour des frères, ça se met en ordre. Joseph d'abord, Judas ensuite. Est-ce que c'est clair? Et nous allons voir que dès le début, ils se séparent. Joseph va à la Sorbonne et Judas, comment on appelle, la rue pavée. Mais vous voyez que nous vivons des temps messianiques. Ça commence à se rapprocher. Okay. Puisque vous avez des gens de la rue pavée à la Sorbonne, ça y en a toujours eu. Il y a déjà des gens de la Sorbonne à la rue pavée, ce que vous ne savez pas. Et alors, enlever pavé, parce que pavé de bonnes intentions, c'est déjà l'enfer. Mais... Là, il se sépare. Et si Joseph est séparé de Judas, c'est pas Israël. Et si Judas est séparé de Joseph, c'est pas Israël. Il faut que les deux soient ensemble pour qu'Israël apparaisse. Tant que Joseph et Judas sont séparés, c'est Jacob. Et Jacob, lui, en tant que Jacob, qui préfère? Joseph. Mais en tant qu'Israël, il est obligé de préférer Judas. Vous voyez quelle problématique il y a là, okay? Parce qu'en tant que Jacob, il préfère Rachel, mais en tant qu'Israël, c'est Léa. Toute cette problématique est trop riche pour que je vous en donne même le commencement des détails. Mais sachez que la Torah nous a raconté notre carte d'identité jusqu'au détail le plus angoissant. Et cependant, le dévoilement de l'identité Israël est plus d'emblée annoncé chez Judas que chez Joseph. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors là, je vais m'arrêter là ce matin, à moi qui ai encore une question. Je vais vous montrer au tableau très rapidement. Non, je ne peux pas écrire au tableau, mais vous allez comprendre pourquoi. Dans le nom de Yehuda, il y a les quatre lettres du nom de Dieu et le Dalet. Et dans, ça va jusque-là, Yehuda, vous voyez, visualisé. Ça fait partie d'un grand principe. Le nom de Dieu se dévoile à travers le nom de toutes les tribus, de façon plus ou moins cachée, de façon plus ou moins dévoilée. Là où il se dévoile le plus, c'est dans le mot de Yehuda. Okay. Le verset dit « Ki shemi nikra alecha ». Israël est le porteur du nom de Dieu. Ça se dévoile dans le nom des tribus. Dans le nom des patriarches aussi, mais de façon plus ou moins occultée. Là où ça éclate, à l'évidence, c'est dans le nom de Yehuda. Yosef aussi. Il y a une fois, dans ce psaume que j'ai cité tout à l'heure, Yosef est écrit « Yehosef ». Et vous voyez qu'est-ce qui se passe dans Yehosef? Yud, He, Vav et Sof. Il y a une fin. Sof, Sof, si. Sof. C'est clair? Yehosef, ça prend fin. Ça, c'est ce grand deuil de ma chère Ben-Yosef. Tandis que dans Yehuda, il n'y a pas de fin. Vous voyez la différence? Donc, c'est-à-dire, nous sommes avertis, c'est le programme déjà pour demain, qu'il faut d'abord comprendre la préséance de Joseph sur Judas dans le temps. D'abord Joseph, ensuite Judas. Mais dès que Judas apparaît, Joseph est fondu dans Judas. Et nous sommes à un stade où on peut de plus en plus comprendre existentiellement le conflit qu'il y a entre ces deux forces dans le peuple juif et en Israël même, au stade où le Rav a pris le problème il y a 50 ans. Ça va ? Top. Bien, puisqu'on a peut-être 5 minutes, si vous avez une question, sinon on se donne rendez-vous.
La signification du Dalet dans le Judas ?
C'est le quatrième patriarche. Et le quatrième fils de Léa, d'ailleurs. Et puis, il annonce David, il faut bien qu'il y ait une allusion.